autres informations.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, bonjour à tous, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient, je suis évidemment ravi de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances. Ce matin, comme tous les jours évidemment, nous allons commenter l'actualité. Nous attendons notamment vos réactions sur les révisions constitutionnelles en Afrique, car que ce soit au Burkina Faso, au Burundi, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo ou encore au Rwanda, voire même au Togo, vous voyez que la liste des pays est longue, eh bien les chefs d'État de ces pays en sont à leur dernier mandat présidentiel et toute la question est de savoir si ils vont modifier la constitution pour être candidats à leur propre succession. C'est en tout cas l'intention que leur prête l'opposition et une partie de la société civile. Du coup, en République démocratique du Congo, un opposant propose de renforcer le statut des anciens chefs d'État afin de leur garantir la sécurité et l'immunité. Évidemment, l'objectif, c'est de les encourager à ne pas s'accrocher au pouvoir. Alors, que vous inspire finalement cette proposition de loi? Quel avenir pour les anciens chefs d'État? C'est notre débat du jour. Vous nous rejoignez. On en reparlera dans une demi-heure. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Les réseaux sociaux évidemment, Twitter, Facebook, plus de 200 réactions postées sur la page Facebook de l'émission. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. On en reparlera donc ensemble dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vos questions pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, mieux comprendre certains de ces sujets. N'abusez surtout pas, enfin au contraire, abusez du téléphone, appelez-nous, toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Allez, la première question du jour nous vient du Mali, nous allons à Bamako. Bonjour Abdoul.
Oui, bonjour Juan, bonjour RFI.
Vous avez des questions concernant la situation en Irak?
Oui. J'ai une question sur la politique du Vatican en Irak.
Mmh.
Le pape François a parlé des violences dont les chrétiens sont victimes en Irak. Le pape peut-il jouer un rôle important dans cette crise? Et quelle est sa marge de manœuvre?
Ouais, d'autant qu'il a dit il y a quelques jours que s'il le fallait, il pourrait se rendre sur place. Et même la semaine dernière, dans l'avion qui le ramenait de Corée, le pape François a même évoqué les conditions d'une possible intervention militaire en Irak. Olivier Bonnel, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, vous êtes l'un des correspondants d'RFI au Vatican. Dans cette crise irakienne, quelle est finalement la marge de manœuvre du pape François?
Écoutez, on peut dire que le pape joue déjà un rôle important hein, dans sa volonté de mobiliser les consciences. Son style direct qui interpelle s'y prête plutôt bien. Quand François parle, pourrait-on dire, il est écouté. Souvenez-vous, Lampedusa. On se rappelle qu'il y a presque un an déjà, il faut remonter un peu l'actualité, il avait organisé une prière pour la paix en Syrie, place Saint-Pierre, qui avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes et qui avait lieu alors que les États-Unis et la France faisaient pression pour bombarder Bachar al-Assad. Le pape qui avait même écrit à Vladimir Poutine pour lui demander de faire tout son possible pour éviter les frappes. Elles n'ont pas eu lieu, on s'en souvient, et beaucoup disent ici que le pape y a été pour beaucoup dans la désescalade. Alors la crise en Irak à la suite de la Syrie ne le laisse pas indifférent, loin de là, vous l'avez dit, il a même envisagé de s'y rendre et il rappelait il y a une semaine qu'il était licite d'arrêter l'agresseur en évoquant la barbarie des djihadistes.
Oui, ce qu'il faut dire, Olivier Bonnel, c'est que la tradition diplomatique du pape et donc du Vatican est de se baser sur les Nations Unies.
Oui, tout à fait. En 2005, l'Assemblée générale de l'ONU avait approuvé le principe de la responsabilité de protéger par les armes les populations contre des massacres de masse. Et 3 ans plus tard, à la tribune de l'ONU, Benoît XVI avait soutenu ce principe. Mais François, lui, est plus volontariste que son prédécesseur. Le 9 août dernier, il avait envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lettre dans laquelle il appelait la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre fin à la tragédie humanitaire en cours en Irak en conformité avec les articles de la charte de l'ONU, fin de citation. Sans en préciser la nature, il s'agissait clairement d'un feu vert donné à une intervention. Alors la marge donc de manœuvre du pape est limitée, certes, hein, le Vatican n'est qu'observateur à l'ONU, mais le lendemain, 10 août, l'observateur du Saint-Siège près de l'ONU à Genève, Mgr Tomasi, affirmait clairement qu'une intervention militaire était une option nécessaire pour stopper l'État islamique.
Et vous aviez d'autres questions, Abdoul?
Oui, ensuite le pape a envoyé un émissaire en Irak. Quelle est sa mission sur place?
Alors, il s'agit du cardinal Fernando Filoni. Que fait-il concrètement sur place? Et quand on dit sur place, c'est dans le Kurdistan irakien, hein, Olivier?
Oui, absolument. Le cardinal Filoni, un des proches du pape François, qui est rentré il y a quelques jours de sa mission d'une semaine. C'est tout un symbole, car celui-ci fut nonce apostolique à Bagdad, donc l'ambassadeur du Vatican jusqu'en 2006. Il fut même le dernier diplomate occidental à rester en poste dans la capitale irakienne, alors que le pays sombrait déjà dans le chaos. Filoni a été mandaté dans le Kurdistan irakien pour une mission avant tout humanitaire, puisqu'il a rencontré les minorités chrétiennes yézidis chassées par l'État islamique. Il a d'ailleurs apporté $1 million pour ces réfugiés. Le prélat qui a raconté combien il avait été bouleversé par les regards vides de ses femmes et de ses enfants rencontrés à Erbil ou ailleurs et qui ont tout perdu. Et avant de revenir à Rome, le cardinal Filoni s'est aussi arrêté à Bagdad où il a remis au président irakien Fouad Massoum une lettre du pape dans laquelle François l'encourage face aux défis que doit affronter son pays. Quand le pape m'a confié cette mission, a raconté le cardinal à son retour, même s'il ne me l'a pas dit, j'ai eu l'impression qu'il y aurait voulu y aller lui-même. François qui a d'ailleurs longuement reçu son émission dès son retour afin d'entendre son témoignage.
Alors le cardinal Filoni qui a d'ailleurs estimé que les réfugiés avaient besoin non seulement d'une aide humanitaire mais aussi d'une action politique et militaire. Est-ce qu'avec cette crise irakienne, Olivier Bonnel, on assiste finalement à une rupture dans la diplomatie du Saint-Siège? Est-ce qu'on peut parler d'un virage du Vatican?
Plus qu'un virage, Juan, c'est une confirmation, celle que la diplomatie du Vatican revient vraiment en force hein, sous le pontificat du pape François. On vient d'ailleurs de le voir la semaine passée avec les messages au président chinois, par exemple, que le pape a envoyé alors que son avion survolait la Chine de retour de Corée du Sud. Le pape Bergoglio est celui qui fait revenir le Saint-Siège sur le devant de la scène internationale. Non pas qu'il avait disparu, mais les dossiers internationaux étaient moins une priorité de Benoît XVI. Il faut se rappeler que le pape a choisi comme secrétaire d'État son bras droit Pietro Parolin, un diplomate chevronné qui a notamment été nonce au Venezuela et est très impliqué dans le dialogue avec l'Asie. On vient d'évoquer le cardinal Filoni en Irak. On pourrait citer aussi la venue le 8 juin dernier au Vatican, souvenez-vous des présidents israéliens et palestiniens priant autour du pape pour la paix. Derrière les gestes forts, le ton est ferme face aux grandes crises internationales. En témoigne par exemple le 12 août dernier au nom du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux qu'il préside, le cardinal français Jean-Louis Torrent demandait avec une inhabituelle fermeté aux responsables musulmans de condamner unanimement et sans ambiguïté les crimes de l'État islamique.
Merci beaucoup Olivier Bonnel d'avoir été en direct du Vatican avec nous ce matin. Ce sont vos questions à la rédaction, vous nous rejoignez, n'hésitez pas, 33 9 693 693 70. Nous allons, après l'Irak, nous intéresser à la situation dans le Soudan du Sud. Abdoul, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de la RFI, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Conakry et vous avez plusieurs questions hein, sur le Soudan du Sud.
Effectivement. Juan, j'ai entendu qu'une rencontre avait eu lieu entre Riek Machar et le président Omar El-Béchir. J'ai trois questions. La première, pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'accord entre le président Salva Kiir et le rebelle de Riek Machar?
Alors,
que peut-on attendre des négociations actuelles?
Alors ça, c'est effectivement de bonnes questions. On va quand même replanter le décor parce que la situation dans le Soudan du Sud est particulièrement complexe. On a donc deux camps. D'un côté, donc le président sud-soudanais, Salva Kiir. De l'autre, son ancien vice-président, Riek Machar, qui est aujourd'hui donc chef rebelle, qui a notamment reçu le soutien d'une partie de l'armée. Et depuis la mi-décembre, eh bien, ce conflit a fait des milliers de morts, voire même des dizaines de milliers de morts. Marc Lavergne est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur au groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, et vous êtes évidemment spécialiste de la région du Soudan. Alors on se souvient qu'au mois de mai, le 9 mai pour être précis, les deux camps avaient conclu un accord pour former un gouvernement d'union nationale. Les deux camps s'étaient donnés jusqu'au 10 août pour former ce fameux gouvernement. Nous sommes aujourd'hui le 25 août, il n'y a toujours pas de gouvernement. Pourquoi ?
Rien ne s'est passé en effet, et puis il faut signaler qu'il y a 1,5 million de personnes déplacées dans l'ensemble du pays sur une population de 12 millions, donc on a une situation vraiment catastrophique et il semble que les belligérants n'en avaient pas pris conscience ou du moins ne se sentent pas vraiment concernés par cette situation humanitaire catastrophique. Alors les négociations, elles ont lieu à Addis Abeba sous l'égide de l'IGAD, c'est-à-dire le groupe régional de la Corne de l'Afrique, des pays voisins du Soudan du Sud. Mais il semble que les deux camps ne soient pas pressés de parvenir à un accord, ou en tout cas de respecter D'accord, faute de pression internationale suffisante, sans doute, malgré les prises de position, prises de parole de l'ONU, des États-Unis, des pays qui sont concernés, des puissances occidentales qui sont concernées par la situation sur place. Eh bien, je crois tout d'abord que l'enjeu de ce conflit, il est purement matériel. Il s'agit de prendre le pouvoir et de s'accaparer les ressources pétrolières du Sud-Soudan entre deux camps qui n'ont pas de clivage profond entre eux. Alors, les négociations, elles se poursuivent. On en est à la cinquième phase de pourparlers, hein, et il y a de grosses délégations qui sont présentes sur place à Addis Abeba. Mais comme il n'y a pas d'enjeu vraiment autre que le partage du pouvoir, rien n'avance finalement. Et puis, il y a des clans très divisés et sur place, une situation qui est un peu incontrôlable, aussi bien par le clan gouvernemental que par le clan des rebelles.
Il va y avoir un énième round de négociations à Addis Abeba dans les prochains jours, le 28 août pour être précis. C'est-à-dire que vous, en tant que spécialiste de la région du Soudan, vous n'attendez rien de ces négociations ?
Et hélas, non, à moins d'un facteur extérieur qui serait de plus déterminant. Mais jusqu'à présent, personne ne bouge. Et la situation sur place, encore une fois, chacun espère prendre la totalité du pouvoir. Donc il n'y a aucune recherche de compromis politique, parce qu'il n'y a aucun enjeu politique, si vous voulez, idéologique, aucun projet de développement divergent d'un côté ou de l'autre pour le pays, et qu'il s'agit simplement de mettre la main sur ses ressources. Alors, avec Antoine Dufond, on y reviendra peut-être, qui jette de l'huile sur le feu.
Effectivement. Marc Lavaigne, reste avec nous. D'autres questions, Abdoul ?
Oui.
On vous écoute.
Que peut-on attendre des négociations actuelles ? Un accord est-il possible ?
Oui, alors l'accord pour l'instant ne semble pas être possible. Hein, c'est ce que nous disait Marc Lavaigne, Abdoul.
S'il n'y a pas d'accord, les deux parties risquent-elles des sanctions de l'ONU, si oui, lesquelles ?
Alors, des sanctions de l'ONU, on en parle, Marc Lavaigne. D'ailleurs, l'ONU a clairement brandi cette menace au début du mois.
On en parle de toute façon dans tous les conflits. M. Ban Ki-moon s'est exprimé en effet d'une manière qu'il a voulu un petit peu ferme. Mais l'ONU s'est engagée et a sur place déjà une force armée. Elle a une administration, si je puis dire, des agences de l'ONU, agences humanitaires entre guillemets. Mais les sanctions ne touchent pas vraiment ces personnages, Salva Kiir ou Riek Machar, qui ont certes des avoirs à l'étranger, qui peut-être avoir peur d'être interdit de voyage. Mais quand tu vois l'exemple d'Omar El-Béchir, qui a été mis sous mandat d'arrêt de la CPI et qui continue à se promener à travers le monde sans que personne ne s'émeuve, oui, je ne pense pas que ces gens-là soient sensibles à ces sanctions.
Une dernière question, Abdoul.
Oui. Pourquoi est-ce que Riek Machar, non pas Salva Kiir, actuel président du Soudan, qui a rencontré Omar El-Béchir, le président du Soudan ? Quel était l'objet de cette rencontre ?
Ah, alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant, c'est le chef des rebelles sud-soudanais, donc Riek Machar, qui s'est rendu au Soudan et qui s'est entretenu en personne avec le président Omar El-Béchir. Comment expliquer ce déplacement à Khartoum en quelques mots ?
Il y a d'abord une dimension historique, c'est-à-dire qu'en 1991, Riek Machar, qui était déjà rebelle contre le mouvement du SPLM, qui était dirigé par John Garang, le patron de Salva Kiir, eh bien, il s'était mis aux ordres de Khartoum pour recevoir de l'aide financière, des armes, des équipements, pour monter un mouvement rebelle. Et puis, il s'était rangé du côté du gouvernement 30 ans plus tard. Donc, on revient un peu à la case départ. C'est vrai que Khartoum essaye de remettre la main sur le Sud-Soudan en regrettant d'avoir accordé l'indépendance aussi facilement en juillet 2011, en se disant que c'est peut-être l'occasion. Mais Khartoum est en même temps assez faible à l'intérieur, il y a des divisions. Donc, Riek Machar est allé voir Omar El-Béchir, qui en même temps fait mine de soutenir le gouvernement légitime, avec lequel il a passé des accords pétroliers. Donc, je dirais qu'Omar El-Béchir et le gouvernement soudanais attisent le feu en soutenant les deux camps.
Merci Marc Lavaigne, spécialiste du Soudan. La situation au Soudan du Sud vous interpelle. On en parle, si vous le souhaitez, vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous le savez, vous commentez l'actualité de votre choix. Plusieurs questions concernant le procès de Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais, vous le savez, poursuivi pour enrichissement illicite. Son procès a repris la semaine dernière. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Kaolack, nous vous écoutons.
Merci Juan. Donc la CRI est jugée compétente pour juger Karim Wade. J'avais deux questions par rapport à ça. La première question c'est quelle est la différence entre la CRI et la Haute Cour de justice en termes de compétences et de prérogatives.
Alors, on va déjà répondre à cette question, puisqu'effectivement, les avocats des deux parties, ceux de la Défense et ceux de l'État sénégalais, se disputent sur la compétence de la juridiction qui est habilitée à juger Karim Ouad. Les avocats de l'ancien ministre affirment que la CRI, donc la Cour de répression de l'enrichissement illicite, est incompétente pour juger Karim Ouad. Et ils affirment qu'au contraire, seule la Haute Cour de justice est compétente. Binta Diagne, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Mamadou.
Vous êtes l'une de nos correspondantes au Sénégal. Quelle est la différence entre la CRI et la Haute Cour de justice?
Alors, pour parler de ces deux juridictions-là, il faut revenir au texte. La Haute Cour de justice a été créée en 2002. D'après l'article 101 de la Constitution, cette juridiction est chargée de juger le président de la République en cas de trahison, de juger le Premier ministre, les ministres et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État, de juger le Premier ministre et les autres membres du gouvernement s'ils commettent des délits ou des crimes dans l'exercice de leurs fonctions. Ensuite, d'après la Constitution, la Haute Cour de justice a un caractère assez politique, en fait, puisqu'elle comprend 8 juges titulaires qui sont élus par l'Assemblée nationale. Et pour équilibrer, en fait, un peu les choses, elle est présidée par un haut magistrat. Il s'agit du premier président de la Cour de cassation. Toujours sur la Haute Cour de justice, il faut surtout noter que les arrêts de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation. C'est ce que dit l'article 35 de la loi organique qui met en place la Haute Cour de justice.
Voilà donc pour la Haute Cour de justice. Que peut-on dire concernant la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite?
Alors la CRI, elle est bien plus vieille. Elle a été instituée par une loi le 10 juillet 1981. Dans un contexte assez particulier, les socialistes qui étaient arrivés au pouvoir étaient à l'époque avaient un souci d'assurer toujours plus de justice sociale. Et ça figure dans l'exposé des motifs de cette loi-là. La CRI est chargée de juger les délits d'enrichissement illicite ou délits de corruption. Elle vise en particulier tout titulaire d'un mandat public électif ou d'une fonction gouvernementale, d'un tout magistrat, tout agent civil ou militaire de l'État. Alors, l'enrichissement illicite est considéré comme un délit instantané et il est défini comme tel, et là par contre je vous cite encore l'exposé des motifs. Alors ce délit est constitué non pas par l'enrichissement en soi, qui peut avoir été réalisé à n'importe quelle date dans le passé, mais par le fait qu'une personne donnée, ayant pu abuser de sa qualité et de ses fonctions, se trouve dans l'impossibilité, après la sommation qui lui en a été faite, d'apporter la preuve de l'origine illicite de son patrimoine actuel.
Voilà, on a rappelé donc les textes, et c'est important de les citer tels quels. Binta Diagne, Mamadou, vous aviez une autre question concernant toujours la Cour de répression d'enrichissement illicite.
Oui, quels sont les arguments qui ont motivé la CRI à se juger compétente?
Oui, la CRI qui s'est déclarée donc compétente pour juger Karim Ouad. Quelles sont ses motivations? Sur quoi se base-t-elle?
Alors juste avant d'arriver sur les motivations, je voulais juste préciser une chose concernant la CRI, parce que ça a été l'objet d'un très 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 long débat. Elle a été vraiment critiquée par rapport à cela. En fait, quand on regarde les textes, on s'aperçoit qu'en fait, les arrêts de la Cour qui sont prononcés par la CRI, ils sont prononcés en audience publique, et c'est surtout qu'ils sont susceptibles d'un pourvoi en cassation du condamné ou bien du ministère public. Et ça, c'était un point vraiment très controversé qui permettait de dire aux avocats de Karim Ouad que, en fait, ça n'assurait pas le droit de la défense, qu'il n'y avait pas de recours en cas de décision de la Cour à la fin du procès. Pour en revenir aux arguments qu'a avancé la CRI, alors la CRI, en fait, elle a balayé tous les arguments présentés par les avocats de la défense. Elle a notamment estimé que la loi de 81, bien que tombée en désuétude, n'avait jamais été abrogée, ni tacitement, ni explicitement. Elle a rejeté également tous les cas de jurisprudence cités par la défense. Elle a estimé qu'ils n'étaient pas valables. Et ensuite, elle a estimé que Karim Ouad n'était plus ministre depuis plus d'un an au moment de son inculpation en avril 2013. Et du coup, il ne peut pas se faire valoir d'un quelconque privilège de juridiction comme il le souhaitait.
Merci Binta Diagne. On avait prévu d'autres questions. On aura certainement l'occasion de vous rappeler dans la semaine, car ce procès de Karim Ouad passionne évidemment les Sénégalais. Vos réactions d'ailleurs aussi nous intéressent. 33 9 693 693 70. D'autres questions à la rédaction demain. D'ici là, n'hésitez pas, appelez-nous, le standard reste ouvert tout au long de la journée. On attend ces questions, 33 9 693 693 70. Reste avec nous, tout de suite le journal. Et dans 10 minutes, nous parlerons des révisions constitutionnelles en Afrique.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.